aperçu général sur l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que nous saisissons d'une nouvelle occasion de parler de Jésus-Christ pour préluder à cette étude. Nous allons lire d'abord le psaume 45, le psaume 45, verset 2. C'est un cantique des fils de Corée, chant d'amour, cantique chant d'amour. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Le mot « collègue », c'est une traduction très approximative. Elle est difficile à trouver, la traduction ici. Le mot « collègue », évidemment, le Seigneur Jésus, dont il est parlé ici, n'a pas de collègue, n'est-ce pas? C'est une traduction très difficile à faire. Enfin, laissons ce mot qui est une approximation. Verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or, elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Ce psaume est remarquable, absolument remarquable, parce que il est tellement facile d'y voir Jésus-Christ et l'Église, n'est-ce pas, toute resplendissante est la fille du roi, la fille d'un certain roi, n'est-ce pas, et qui est présentée alors au roi, vêtue de ses habits brodés, en vue, bien entendu, des noces, de ses noces avec le roi. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie cette humanité d'où tu sors et qui ne peut pas être sauvée. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oublie cela. Oublie le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et puis alors, nous avons là quelque chose qui, au verset 7, est absolument péremptoire. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Et cela, c'est dit à celui qui est le plus beau des fils de l'homme. Voyez que la divinité du Messie, car les Juifs sérieux, voient là le Messie, n'est-ce pas? Le Messie. Donc la divinité du Messie est là situé d'une façon absolument déterminante. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il y a donc deux dieux, n'est-ce pas? Voyez-vous, il y aurait deux dieux si l'on ne voyait les choses sous le jour de la révélation que nous donne le Nouveau Testament. Alors, après cela, va-t-on encore mettre en cause la divinité du Seigneur Jésus? Va-t-on épiloguer pour essayer de la situer sur un plan peut-être légèrement différent? Non, il n'y a qu'un Dieu, un Dieu unique, et Jésus-Christ partage avec le Père cette unique divinité. Mais quand le Père s'adresse au Fils, vous voyez bien qu'il y a là, n'est-ce pas, le langage d'une personne à l'autre, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Cela est repris dans les Hébreux. Eh bien, après cette lecture d'introduction, je voudrais vous rappeler ceci, c'est que le Seigneur Jésus demande à l'Église, demande pas à ses contemporains seulement, il demande à l'Église tout entière, quand il a parlé à ses apôtres, il a parlé à l'Église, n'est-ce pas? Il faut bien le savoir et le comprendre. Cela d'ailleurs est dit explicitement. Eh bien, c'est donc à l'Église que le Seigneur Jésus a demandé de le connaître. D'abord, dans la prière sacerdotale, il est dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. » Donc, connaître, c'est connaître intimement, c'est être lié dans la communion avec Dieu, la communion au Père et au Fils, lié avec Dieu et avec le Fils. Mais connaître, c'est aussi connaître dans tout le développement de la révélation qui nous est donnée de Dieu et de Christ. Et l'on ne peut pas connaître le Père sans connaître le Fils. Il faut d'abord bien connaître le Fils, c'est au travers du Fils que nous connaîtrons Dieu. Savez-vous, chers amis, que la connaissance de Dieu est très insuffisante aujourd'hui dans l'Église. D'où les risques, d'où des risques, n'est-ce pas? Et les hérésies n'apparaissent toujours que là où il y a une faiblesse dans la connaissance. Et dans la foi, bien entendu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 19, nous lisons, « Ils lui dirent donc, où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. Jésus est le révélateur du Père, celui qui manifeste le Père. Il faut le connaître, lui. Et puis, le verset 24 du même chapitre, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous voyez que le salut, c'est bien dans la connaissance intime d'une personne, de la personne de Jésus-Christ, le salut est là. Parler de Christ et de son œuvre est une chose exaltante. La méditation sur la personne et sur l'œuvre de Christ est spirituellement savoureuse, exaltante. Et c'est par cette méditation, c'est en méditant avec foi, en méditant avec amour même, que l'on parvient à la contemplation de Christ. Voilà quelque chose aussi qui n'est pas bien connu. Il ne s'agit pas là de mystique, de mysticisme. Il s'agit d'une contemplation purement spirituelle de Christ. Nous le contemplons comme par un miroir, comme par le moyen d'un jeu de glace, nous contemplons la gloire du Christ Et nous sommes ainsi nous-mêmes élevés de gloire en gloire, nous dit l'apôtre Paul. Qui dit-on que je suis ? Demanda un jour à ses apôtres le Seigneur Jésus. Et là déjà, c'était l'invitation faite à l'Église de le connaître, lui, le Sauveur, le souverain sacrificateur et le roi, par une vue spirituelle et réelle. Et la vue de Pierre portée sur le Seigneur à ce moment-là a été une vue spirituelle, le Seigneur lui ayant dit, n'est-ce pas, après sa déclaration, sa confession, ce qu'on appelle sa confession, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », eh bien, le Seigneur lui a dit, « Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te font dire cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Voyez la vue spirituelle portée sur le Seigneur Jésus. Il faut donc le contempler, lui, si l'on veut connaître Dieu. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux. Cette contemplation de la personne de Jésus revêt toujours un sens. Elle embrasse la personne et l'œuvre du Christ, l'œuvre avec la victoire qui la couronne, victoire sur le péché, sur la mort et sur la mort. On peut très bien mal connaître Christ, mal le considérer, mal le contempler, d'où la nécessité de notre méditation. Il y a aujourd'hui quantité de gens qui prétendent avoir la foi et qui vous présentent, par exemple, un Christ social. Un Christ qui presque serait à parité avec Karl Marx, n'est-ce pas? On vous présente cela aujourd'hui, d'ailleurs en fait un christianisme marxiste, n'est-ce pas? Comme si les deux choses pouvaient aller ensemble. Et puis il y a d'autres manières, n'est-ce pas, de fausser complètement la vue sur le Christ. Alors si l'on fait cela, eh bien, on fait tout simplement du Christ une idole. Comme par exemple, le bon Dieu des religions traditionnelles, le bon Dieu est un faux Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas le Dieu vivant. C'est un Dieu qui use d'une sorte de paternalisme, n'est-ce pas, ça va bien, il est complaisant, bon, il n'est pas trop méchant, il est gentil, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que cela? C'est une vue absolument déformée, et si l'on se plaît, il y a des, par exemple des catholiques qui se plaisent, n'est-ce pas, à considérer, qui ont une certaine émotion religieuse d'ailleurs, à considérer le bon Dieu sous ce jour-là, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ont fait tout simplement, n'est-ce pas, de quelques éléments de départ, quelques éléments de vérité altérés, ils ont fait une idole, tout simplement. La connaissance de Christ et de son œuvre nécessite l'action de l'Esprit. Le Seigneur Jésus a bien dit ceci, « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Cela dans Matthieu 11, verset 27. Et pour que le Fils nous révèle le Père, pour que préalablement le Père nous conduise au Fils, car cela aussi c'est indiqué dans un autre passage, dans l'évangile de Jean, il faut être des enfants. Dans le contexte de Matthieu 11, le Seigneur a tressailli de joie parce que cette révélation est faite à des enfants et non pas à des sages et à des intelligents. Soyons donc des enfants, non pas selon le jugement, mais par la foi. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ constituent le sanctuaire des hommes de la terre. Le sanctuaire, c'est cela, ce ne sont pas les cathédrales. Les cathédrales détournent l'attention, détournent l'esprit des hommes. Et tout ce qui est institutionnel détourne la foi même, souvent, n'est-ce pas, procure à la foi de faux objets. La foi a besoin de ces objets. Parce que la foi, n'est-ce pas, eh bien, il faut qu'elle se dirige sur des objets. Il faut qu'elle se dirige sur le grand objet qui lui est proposé, c'est-à-dire Christ, et toutes les choses qui ont été faites avec l'iconographie, les images, les statues, les magnifiques constructions, car il faut bien dire, n'est-ce pas, que les cathédrales que nous avons, par exemple, en France ou en Occident en général, sont quelque chose de merveilleux point de vue réalisation humaine, n'est-ce pas ? C'est évident. Mais ce n'est pas ça, le sanctuaire. Le sanctuaire donné aux hommes, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et le contexte de Jean chapitre 2 est celui-ci. Il parlait du temple de son corps. Jésus est le sanctuaire des hommes. C'est de ce sanctuaire que coule le fleuve de l'eau de la vie, la source d'eau vive. Au bord de ce torrent, de ce fleuve, pousse l'arbre de la vie. C'est de ce sanctuaire que coule la source inépuisable de la justice et de la vie. Et bientôt, les hommes en seront rendus conscients par la vue, mais ne seront pas sauvés par la vue. La vue viendra, tous le verront. Tous verront le sanctuaire, et au moment où le Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, un torrent jaillira à ses pieds. Le torrent sera matérialisé là, la source d'eau vive, de justice, et le temple de Jérusalem dont le prophète Ézéchiel, dans ses chapitres 40 et suivants, nous présente la magistrale vision, eh bien, de ce temple, sous le seuil de ce temple, sort un fleuve qui va s'élargissant, une source qui va s'élargissant, donne naissance à un torrent de plus en plus profond, la source de la justice et de la vie. Car la vie repose sur la justice de Dieu. L'Écriture nous présente le nom de Jésus comme celui qui est supérieur à tous les noms. Et l'Écriture de nous dire, Dieu a voulu qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand on disait sous la terre, cela ne veut pas dire, comme d'aucuns le prétendent, dans le centre de la terre, c'est-à-dire dans la matière même du globe, mais cela veut dire sous nos pas, aller aux antipodes, n'est-ce pas, aux antipodes de Père Guillot, par exemple, en ce moment où nous nous trouvons, eh bien, de l'autre côté, dans un autre sens, il y a aussi une partie du ciel, n'est-ce pas, et il ne faut pas l'oublier, celle-là. Par conséquent, d'une façon universelle, Dieu a voulu qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent. C'est vous dire, n'est-ce pas, que Jésus, le sanctuaire des hommes, devient aussi un sanctuaire pour l'univers. L'œuvre de Jésus, comment l'embrasser? D'abord d'un regard circulaire. Eh bien, nous pouvons dire rapidement, Jésus-Christ est celui qui crée en lui-même. Et par un assujettissement à lui, c'est-à-dire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, Jésus-Christ crée la seconde création, la seconde humanité, avec pour matériau premier l'ancienne humanité. Pour tout homme de foi humble, de foi humble, de foi tranquille, votre foi n'a pas besoin d'être de se tourmenter, il faut qu'elle soit humble et tranquille, tout est prêt, tout est fait, vous n'avez pas besoin de problèmes, abandonnez vos soucis, vos problèmes, la foi doit être tranquille, calme, tranquille, cette foi tranquille, cette foi humble, eh bien nous montre Jésus-Christ, comme le chemin, le grand chemin, le chemin merveilleux. Il faut toujours emprunter un chemin, car la vie est une marche, la vie est un devenir. Il est le chemin, il est la vérité, la vie, il communique l'une et l'autre. Il a aussi rempli la mission de prophète. Dieu avait parlé dans les anciens temps, par ses serviteurs, les prophètes en Israël, car Israël avait des prophètes, car Israël était ce peuple au sein duquel Dieu parlait. Vous savez, il faut que nous ayons, nous, une idée nouvelle d'Israël, malgré tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament et qui nous montre, n'est-ce pas, les points terriblement faible, qui nous montre même, on peut dire, les trahisons du peuple à l'égard de son Dieu. Cependant, Israël est Israël, et le lutteur avec Dieu. Et ayons une vue, non pas la vue de l'historien, mais ayons une vue spirituelle sur ce que Dieu a fait au moyen d'Israël. Le salut vient des Juifs. Israël avait donc des prophètes. Nous, aujourd'hui, nous avons des savants et des philosophes. Je les changerai tous pour un seul des prophètes d'Israël. Israël avait des prophètes. C'est ça que, aujourd'hui, n'est-ce pas, nos chroniqueurs devraient savoir. Israël avait des prophètes. Et si l'on sait ce qu'est un prophète, si l'on comprend la parole du prophète, on saura que dans l'œuvre et la parole du prophète, il y a la parole de Dieu. Israël, donc, avait des prophètes, et non de ces vains savants, de ces vains raisonneurs, de ces vains discuteurs, écrivains, dont Paul dit que s'ils restent ainsi, ils n'hériteront pas le salut. Dieu avait parlé par les prophètes, et dans les derniers temps, dans les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps de l'Église tout entière, il parle par le Fils. Dieu parle par le Fils. Le Fils a donc rempli un office de prophète. Qui vous dit qu'il ne le remplit pas encore, cet office-là, avec les autres? Car il y a, en somme, trois grands offices remplis par Jésus-Christ. L'office de souverain sacrificateur, l'office de roi et l'office de prophète. Qui vous dit qu'il ne le remplit pas? Quand quelqu'un parle par l'esprit au milieu de l'Église, eh bien, il faut bien que ce soit l'esprit prophétique. D'ailleurs, l'esprit prophétique doit être le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ. C'est l'esprit de la prophétie. Jésus a été donc aussi a été bien sûr, cela résume tout, le sauveur des hommes, le vainqueur de la mort et le révélateur de Dieu sur la terre. Nous allons, pour compléter cette introduction, nous allons maintenant nous poser une certaine question. Pour connaître vraiment Christ, pour le contempler d'un regard du cœur, d'un regard spirituel, faut-il faire place, une certaine place, à la raison? Ou n'est-ce pas la foi seule qui doit intervenir? Autrement dit, la foi doit-elle supprimer, exclure de son champ la science? Ou la foi et la science ont-elles quelque chose à faire ensemble? Quand je parle de la science, je ne parle pas du champ des connaissances humaines, des connaissances que l'homme accumule lui-même, n'est-ce pas? Je ne parle pas de cela. Je parle de la science dans le sens biblique, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu et des desseins de Dieu, de la connaissance de la voie du salut. Ne faudrait-il pas, pour connaître Christ, laisser faire la foi seule? D'aucuns pensent cela. Laisser faire la foi seule. Laisser l'Esprit de Dieu révéler la splendeur de la personne et de l'œuvre de Christ. Eh bien, nous allons répondre à cette question. Il est certain que la foi est tout d'abord vue comme indépendante de la connaissance ou de la science. La foi, en effet, peut apparaître dans tout cœur. Et cela, nous l'avons constaté expérimentalement. Elle peut apparaître dans le cœur d'un petit enfant. Elle peut apparaître dans le cœur de l'ignorant. Elle peut apparaître dans le cœur de l'analphabète. Tout analphabète, n'est-ce pas, qui ne sait rien, qui ne connaît rien, qui n'a pas les moyens d'introduire en lui, n'est-ce pas, la science des hommes, qui reste par conséquent avec un esprit fruste, eh bien, celui-là peut tout aussi bien exercer la foi, quelquefois mieux, disons, n'est-ce pas, que tout autre. Enfin, je ne vous dis pas d'être ignorant pour être des gens de meilleure foi, de plus grande foi. Mais enfin, cela se peut chez l'enfant, nous l'avons vu combien. Et si, chers amis, et si, dans les familles chrétiennes, oh, que je déplore les manquements à cet égard-là, si dans les familles chrétiennes, l'on savait élever les enfants comme il convient, vraiment dans un climat spirituel, un climat de foi, l'on obtiendrait des merveilles. Et dans mes derniers voyages, j'ai vu dans des familles des enfants véritablement qui sont le produit d'un exercice, disons, d'un ministère. Je veux bien employer ce mot, un ministère familial, un ministère des parents à l'égard des enfants. Je crois que les parents ont un ministère à remplir à l'égard des enfants. J'ai vu le produit de cela. J'ai vu dans des familles. J'ai vu des enfants déjà grands qui ont été élevés dans la foi par des soins attentifs et spirituels de la part des parents. Et ce sont de merveilleux produits déjà de l'humanité. Alors, chers amis, c'est pas tout, n'est-ce pas, de corriger un peu son enfant, c'est pas tout, n'est-ce pas, de le pousser à assister très tôt à des réunions. Le tout, c'est d'éveiller en lui un sens spirituel, le sens de la foi et de l'amour de Dieu. Et ça, c'est très subtil, mais c'est possible par les moyens de Dieu. Donc, la foi est indépendante de la science. Il n'y a ni âge, ni antécédent, ni race, ni condition pour la foi. Il lui suffit d'ouvrir le cœur à la repentance et à l'appropriation de Jésus-Christ, car le salut, c'est cela, c'est le lien avec Jésus-Christ, c'est une appropriation de Jésus. Prenons garde que cette foi reste ce qu'elle doit être et qu'elle ne devienne pas raisonneuse. Mais cette foi va-t-elle supprimer la nécessité de la pensée et de la mise en œuvre des facultés de l'homme? Va-t-elle les supprimer? Non, elle ne va pas les supprimer, car alors Dieu aurait modifié la personne humaine. Si l'homme a des facultés naturelles, et nous savons que ces facultés naturelles peuvent, dans leur exercice, aller très loin, nous le voyons ici, maintenant par les découvertes et les techniques qui sont faites, n'est-ce pas? C'est souvent fabuleux, ça tient du prodige. La nature elle-même est prodigieuse, mais on voit les facultés, n'est-ce pas, pénétrer dans les prodiges de la création. Ah, c'est quelque chose de fabuleux, c'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, les facultés, donc, dans l'homme sont très grandes. Mais malheureusement, elles s'emploient au mal. Malheureusement, elles sont au service d'un cœur et qui est rempli des souillures de la chute. Alors, la foi va-t-elle supprimer les facultés de l'homme? Non pas. Elle va les mobiliser. Elle va les mobiliser pour elle. La foi va mobiliser. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul. Et quand, pour lui-même, mettant son expérience en vue, non pas pour se faire valoir, quand il se faisait valoir, savez-vous ce qu'il disait? Qu'il était les balayures, qu'il était l'avorton, qu'il était le plus grand des pécheurs. Voilà comment il se faisait valoir, l'apôtre Paul. Mais quand il avait besoin de mettre son expérience en matière de témoignage devant ses auditeurs, ou plutôt de le faire par plume, n'est-ce pas? Eh bien, alors, il disait que, il rappelait qu'il était hébreu, né d'hébreu, qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, qu'il était pharisien, c'est-à-dire qu'il possédait toute la connaissance du moment. On a dit que c'était un théologien de son temps, mais oui, c'était un savant de son temps, l'apôtre Paul. Et alors il va vous dire, mais je regarde tout cela comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Je regarde tout cela, je ne me targue pas de tout cela. Je regarde cela comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Mais quand il va développer le mystère de Christ, ne va-t-il pas se servir de la connaissance qu'il avait de la loi, de la connaissance même qu'il avait des hommes? Ne va-t-il pas se servir de tout cela si le Seigneur va lui permettre de faire appel à ces éléments, là, n'est-ce pas? Mais alors, ces éléments et l'intelligence de Paul sont mobilisés au service de la foi. Certes, la révélation par l'Esprit de Dieu se situe au-dessus de la raison, au-dessus des acquisitions de l'intelligence, ça c'est certain. Mais, attention, la révélation avec un grand R, et j'aime beaucoup considérer cela, la révélation de Dieu. Il y a une révélation. Nous sommes nourris d'une révélation de Dieu. La révélation ne méprise pas la raison humaine, ni les facultés naturelles, mais la révélation les conquiert. Elle s'en empare. Nous allons lire 1 Corinthiens 2 et verset 9. C'est un très beau passage auquel il faut revenir de temps à autre. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, les choses entendues, les choses révélées. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire des choses qui ne sont point, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées par les voies naturelles au cœur de l'homme? C'est-à-dire, c'est pas par l'exercice des facultés naturelles que ces choses-là ont été connues, mais elles ont été préparées, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, et comment les a-t-il données? Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, nous voyons l'Esprit, n'est-ce pas, qui va, il est libre. L'Esprit de Dieu, il va partout, il sonde les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire, il sonde la personne de Dieu elle-même, dans tout ce qu'elle est, il sonde les desseins de Dieu, il sonde les œuvres de Dieu, n'est-ce pas, et il vient nous sonder, nous aussi. C'est le même Esprit. N'est-ce pas? Il apporte tout cela, il est chargé de tout cela, s'il trouve en nous l'amour. Parce que là, n'est-ce pas, il est question de chrétien. Alors il n'est pas question seulement de foi, il est question d'amour. Quand la foi fait son œuvre, n'est-ce pas, alors à ce moment-là, on parle essentiellement de l'amour. Eh bien, ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans le lien avec Dieu, un lien d'amour, alors Dieu leur révèle ces choses. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire, n'est-ce pas, les facultés naturelles de l'homme, eh bien, lui permettent de connaître ce qui peut être capté, c'est-à-dire ce qui est du domaine sensible. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il faut les connaître, ces choses, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, il faut bien que nous en parlions aussi, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'en parlons pas pour faire des discours, n'est-ce pas, pour faire de la rhétorique, pour faire de l'éloquence. Non. Mais nous en parlons avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec des discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nos pauvres mots, notre pauvre vocabulaire, hein, parce que la langue humaine est pauvre à côté des pensées de Dieu qu'il s'agit d'exprimer. On le voit déjà dans le français qui a bien du mal à exprimer ce qui est souvent dans le grec et dans l'hébreu, n'est-ce pas? Eh bien, à plus forte raison, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, comment pouvoir l'exprimer avec ce pauvre instrument qu'est le langage humain? Eh bien, Dieu fait encore là un miracle. Avec ces pauvres mots, ce pauvre vocabulaire, il transmet quand même des pensées d'une richesse étonnante. Alors ça, c'est le langage spirituel. Mais l'homme animal, entendons l'homme naturel, l'homme psychique, littéralement c'est l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. La raison, n'est-ce pas, ne peut pas les admettre, ces choses de Dieu, sont une folie. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si l'on n'a pas le moyen, n'est-ce pas, un moyen spirituel, hein, le moyen que donnera la foi et avec elle l'amour de Dieu, alors on ne peut pas les connaître. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, elle est arrivée, elle est venue, elle est entrée en nous, il faut qu'elle entre, elle a sa place dans notre cœur, et elle doit gagner de là tout notre être tout entier. Elle doit gagner la mémoire, elle doit gagner l'intelligence, elle doit tout gagner en nous. Et puis, comment l'homme spirituel jugerait-il de tout, comme le dit Paul ici, comment jugerait-il de tout s'il ne pensait pas, si sa pensée ne se nourrissait pas par les voies de l'information? Dieu a donné, n'est-ce pas, des sens à l'homme, des sens, il lui a donné aussi de l'intelligence, n'est-ce pas, et ses voies d'information, eh bien, l'homme peut les utiliser à condition qu'elles soient soumises à la foi. Priorité, bien sûr, à la foi. Priorité à la foi, et l'on peut dire ceci, je ne chercherai pas à comprendre pour croire, mais je croirai pour comprendre. C'est ce que nous dit la Bible. Je ne chercherai pas, n'est-ce pas, à comprendre pourquoi. Attention, quand les chrétiens en sont encore là. Hein, mais frère, je comprends pas bien ce que ça veut dire, je comprends pas. Et puis alors on sent, n'est-ce pas, un petit vacillement, là, le petit vacillement du doute, n'est-ce pas? Je comprends pas, moi, à ce moment-là, quelquefois, je suis un peu vif. Eh oui. Et je dis, eh bien, commencez par croire sans comprendre. Croyez sans comprendre. Après, vous comprendrez. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que l'homme puisse comprendre Dieu? C'est pas possible. Ça, ça ne peut pas entrer par les voies naturelles de la compréhension, ça, n'est-ce pas? Par les antennes de la raison humaine. Ça ne peut pas venir. Dieu a donc donné l'esprit. Il a donné l'esprit. Et vous voyez quelle place est faite à l'esprit, n'est-ce pas? Mais il a aussi donné la Bible. Ah! Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'ait pas donné la Bible, puisque nous la disons inspirée en toutes ses parties, et que nous disons qu'elle est la parole de Dieu écrite. Il a donc donné aussi la Bible, et il est aisé de mal utiliser tant l'esprit que la Bible. Il y a des gens qui utilisent très mal l'esprit et ses révélations, qui les déforment, qui les emmènent dans le rêve et dans le mysticisme ou dans la métaphysique. Ça dépend des tendances, n'est-ce pas, ou des cultures. Alors, on l'emmène, n'est-ce pas? On emmène ce que l'Esprit... Alors, on dit, moi, l'Esprit m'a révélé que, moi, l'Esprit m'a dit. Il y a des gens qui répètent tout le temps, Dieu m'a dit ceci. Ben, si Dieu t'a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, fais ce qu'il t'a dit seulement, n'est-ce pas? Je crois que Dieu s'est contredit. Et quand on entend cela, souvent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai entendu une femme qui vous disait ça tout le temps, et puis elle vous disait les choses les plus contraires entre elles, n'est-ce pas? Un jour c'était d'une manière, l'autre jour c'était d'une autre, et je ne cessais de lui dire, mais alors, écoutez, je ne sais pas, moi, le Dieu qui vous informe, il se contredit tout le temps. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de lamentable. Cela, vous voyez que l'esprit, n'est-ce pas? Attention! Les gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin de méditer la Bible, j'ai pas besoin de lire, parce que l'esprit me conduit, l'esprit me renseigne. En général, ces gens-là font fiasco. Alors, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Nous avons besoin de l'esprit, nous avons besoin de la Bible. Parce que la Bible va nous présenter un tracé. La Bible va d'abord assigner des limites à la révélation de Dieu. Les sources du christianisme sont donc à la fois révélation par l'esprit et Bible. La foi et la science, par conséquent, s'épaulent et se complètent, s'entraident, comme aussi la foi et l'espérance s'entraident mutuellement. La science qui est obtenue par la méditation de la Bible fournit, en effet, à la foi, ses précieux objets. Les objets de la foi seront là. La foi, l'exercice de la foi est un regard, une fonction du cœur, et de la volonté, et de la volonté. La foi est une fonction du cœur. Hein? Et de la volonté. À la fin de l'Apocalypse, nous avons ceci, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. N'oubliez pas que la foi va mobiliser la volonté. C'est par la foi et par connaissance que nous voulons donc contempler le Christ et son œuvre. Nous le voyons d'abord directement, comment? Par son humanité, c'est ce que nous ferons, par son humanité et par ses actes, par ses discours. Mais nous remarquons d'abord, quand nous considérons le Christ sous le jour de son humanité, nous remarquons les perfections de son humanité, qui surpassent tout ce qui est concevable. On peut concevoir un homme parfait, mais comme le Christ, non. Et la chair du Seigneur Jésus, c'est-à-dire son humanité, est alors le voile qui, pour l'homme de foi, l'homme qui aime, le voile qui va s'entr'ouvrir, et laisser apercevoir avec clarté la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire va se voir, n'est-ce pas, derrière le voile, celui qui à la fois pénètre au-delà du voile de l'humanité de Jésus et contemple la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen.